La chronique environnement sur RTF 95.4, également sur internet rtflimoges.com.
Bonjour, est-ce que tu pourrais te présenter tout d'abord et expliquer le rôle de votre association Bassine Non Merci?
Alors, je suis Jackie Texier et j'appartiens à Bassine Non Merci en tant que membre de Saint-Julien Environnement, puisque Bassine Non Merci est un collectif formé de plusieurs associations. Alors, par ailleurs, j'appartiens aussi à Terre de Liens, j'appartiens à l'Osaille Citoyenne, dont je suis trésorier, qui est un microcrédit qu'on fait pour les agriculteurs, des jeunes agriculteurs qui démarrent, qui ont peu de moyens. Un crédit à 0% sans frais de dossier. Donc ça, c'est un peu notre façon de voir l'agriculture, ou une partie de l'agriculture. Donc, mis à part ça, je suis très branché sur l'environnement, parce que je pense que c'est quelque chose qui est fondamental, et en particulier pour les générations qui arrivent, puisque moi, j'ai un peu fait mon temps, mais il faut penser à ceux qui viennent derrière. Donc, qu'est-ce que c'est que le collectif Bassine Non Merci? C'est un regroupement d'associations dans lesquelles on retrouve ATAC, on retrouve les Amis de la Terre, on retrouve Saint-Julien Environnement, dont je parlais, et c'est à ce titre que j'en fais partie. Il y a aussi Alternatiba, il y a aussi... je sais pas si j'ai nommé tout le monde... Génération Future, Alternatiba, les Amis de la Terre, ATAC, Saint-Julien Environnement, voilà. Et puis on a une proximité avec d'autres associations telles que la Confédération Paysanne, où on a des liens assez, enfin une certaine sympathie, je dirais.
Ok. Donc tu as parlé d'agriculture et les bassines sont directement liées à l'agriculture. Donc comment l'association se positionne par rapport au contexte actuel et aux contestations des agriculteurs?
Eh bien oui, comme tu l'as dit, les bassines sont intimement liées à l'agriculture, parce que c'est un des symptômes de l'agriculture qu'on réprouve, c'est-à-dire l'agriculture productiviste liée au capitalisme, à la mondialisation, aux marchands de pesticides, d'engrais. Et voilà, donc on ne peut pas parler de bassines sans évoquer la situation de l'agriculture. La situation des agriculteurs est catastrophique pour plusieurs raisons. La non-application de la loi Egalim 2, avec des prix de vente déconnectés du prix de revient, et souvent inférieurs au prix de revient, des coûts de fonctionnement qui explosent par les intrants, les produits de traitement, je ne dis pas produits phytosanitaires, parce que dans phytosanitaire, ça fait penser un peu à la santé. En fait, les produits de traitement sont des produits qui pulvérisent plus la mort que la vie. La concurrence déloyale des produits étrangers, qui est instaurée par les traités de libre-échange et la mondialisation, et donc qui permet l'entrée de produits à des normes inférieures à celles qu'on connaît en France, et les subventions de la PAC qui sont versées avec retard et dont le montant est calculé à l'hectare, c'est-à-dire que ça favorise les grosses propriétés, on le verra d'ailleurs pour la Haute-Vienne. Donc l'accumulation de toutes ces difficultés fait que le monde agricole est arrivé à bout, et se révolte, je dirais, à juste titre. Alors après, les diagnostics sont les mêmes pour tout le monde. C'est les remèdes et c'est les réponses qui ne sont pas... C'est là qu'on voit des divergences. Les remèdes à cette situation, ils dépendent essentiellement de la volonté du pouvoir politique. À savoir, est-ce qu'on applique la loi Egalim? Est-ce qu'on exige des normes équivalentes sur les produits importés? Est-ce qu'on a le courage de refuser les nouveaux traités de libre-échange, la remise en cause de la mondialisation, la remise en cause des anciens traités, un nouveau mode de calcul de la PAC et tout ça? C'est là que les divergences entre les différentes options agricoles se manifestent. Et puis il y a aussi un gros problème dans l'agriculture qui est la diminution du nombre de fermes. On dit les agriculteurs vont partir à la retraite, dans les 10 ans il y en a la moitié qui vont partir. Et ça se traduit par essentiellement un agrandissement des fermes. Pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés de transmission du fait du coût du foncier. Le prix du foncier a explosé et donc les jeunes ne peuvent pas s'installer parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'installer. Et là, la SAFER joue un rôle qui n'est pas très, propre à certains moments. Par exemple, on voit dans la Vienne une ferme de 2121 hectares qui va être vendue en un seul lot. Et là, personne n'est capable d'acheter... une telle ferme conclusion, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est les holdings, c'est des fonds de pension qui s'installent avec une philosophie qui n'est pas celle que nous défendons. Et puis, ce n'est pas le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, qui est le PDG du groupe Avril, qui va faire obstacle à ce genre de procédé. Donc voilà notre perception de l'agriculture avec donc deux grandes directions, soit l'agriculture paysanne, celle que nous défendons, qui est proche de la défense qu'exerce la Confédération paysanne, et puis une autre vision qui est plus productiviste, qui est celle de la FNSEA et de la coordination rurale.
Pour revenir aux mégabassines, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une mégabassine et à quoi elle sert ?
Alors une mégabassine, on va voir tout à l'heure le lien qu'il y a entre les mégabassines et le productivisme. Une mégabassine, qu'est-ce que c'est ? Alors, d'abord, ça a été appelé abusivement réserve de substitution. En fait, c'est un réservoir artificiel dans lequel on stocke des quantités énormes d'eau. Si on prend la bassine de Sainte-Soline, qui a fait la une de l'actualité le 25 mars dernier, le 25 mars, j'étais à Sainte-Soline et j'ai vu d'ailleurs une manifestation qui ne correspond pas du tout à ce qu'on a pu voir sur CNews, ce qui est bien normal, puisque c'est la chaîne à Bolloré. C'est une chaîne d'extrême droite, comme chacun sait. Donc la bassine de Sainte-Soline, 10 hectares d'eau, une superficie d'eau de 10 hectares, un impact sur le sol, une emprise au sol de 16 hectares. Donc ça veut dire que c'est 16 hectares qui ont été travaillés par les bulldozers et donc qui sont inutilisables pour la culture. Là aussi, on nous parle de souveraineté alimentaire, et quand on fait le cumul de tous les hectares qui sont appropriés, je dirais, pour construire des bassines, ça interpelle. Donc il y a 730 000 mètres cubes d'eau dans la bassine de Sainte-Soline. Alors qu'est-ce que c'est qu'une mégabassine ? Eh bien, le principe c'est... Au départ, on a voulu nous faire croire qu'on captait les eaux de ruissellement, les eaux de pluie, et en fait, très vite, le voile s'est déchiré. Et on se rend compte qu'on sait maintenant que les bassines, le principe, c'est le remplissage en hiver par pompage, soit dans les nappes phréatiques, soit dans les nappes de surface, soit dans les cours d'eau, ou par drainage des zones humides, ce qui est une catastrophe sur le plan environnemental, parce que les zones humides jouent le rôle de ce que joue la forêt au niveau de l'atmosphère, c'est-à-dire que c'est des zones tampons, et la suppression des zones humides, c'est une catastrophe. Donc, quel est le principe ? C'est celui-là. Alors, quel est l'inconvénient ? L'inconvénient majeur, c'est l'évaporation. C'est-à-dire qu'on stocke sur 10 hectares, par exemple, si on prend Sainte-Soline, on a un miroir d'eau de 10 hectares qui va s'évaporer pendant l'été. Donc, ça fait une perte d'eau considérable. Et puis, en plus, il y a comme on a un film plastique noir au fond de la bassine, la chaleur de l'été fait que se développent des cyanobactéries. Et lorsque des animaux tombent dans la bassine, ils ne s'en sortent pas. Ils sont certains de mourir. D'ailleurs, on sait, même en Haute-Vienne, à certains moments, on a des interdictions de baignade sur tel ou tel étang, sur tel ou tel lac, ou dans telle ou telle rivière. Donc ça, c'est aussi, ça veut dire qu'on arrose aussi avec des eaux qui sont imprégnées de cyanobactéries. Alors après, l'autre aspect, alors c'est l'aspect, je dirais, écologique, environnemental. Il y a un autre aspect, c'est un aspect, je dirais, éthique, en ce sens que cette eau, elle est accaparée au bénéfice de certains. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas accès à la bassine, donc les gens qui sont raccordés à la bassine, ils ont de l'eau, et puis les autres, ils n'ont pas. On tape dans les nappes phréatiques, et donc ça amoindrit la réserve en eau. Et ça pose problème, y compris pour les gens qui sont aux alentours. Et puis, il n'y a pas que l'agriculture qui fait ça, parce qu'à Volvic, par exemple, les gens... Bon, je ne veux pas entrer dans une direction qui irait loin, mais les gens ont des problèmes d'eau parce que les eaux de Volvic pompent les nappes phréatiques dans des proportions énormes, ce qui fait qu'à côté, on souffre.
Sur ces mégabassines, quelles sont les principales régions concernées par cette problématique en France ? Et quelle est la situation actuelle dans le Limousin ?
Alors là, d'abord l'objectif des mégabassines, ça a été, c'est encore essentiellement l'arrosage du maïs. Alors le maïs, là, on pourra en parler, quel est l'objet, pourquoi faire ? Je réponds à ta question de manière directe. Quelles sont les zones qui ont été les plus impactées ? Eh bien, au départ, ça a été en Vendée. C'est en Vendée qu'on a commencé à créer des mégabassines. Et puis, peu à peu, ça s'est étendu vers le Marais Poitevin, c'est-à-dire les Deux-Sèvres. Le Marais Poitevin, c'est la plus grande zone humide d'Europe. Or, de plus en plus, compte tenu du fait que les champs de maïs s'étendent autour, qu'il y a des pompages, qu'il y a des bassines, qu'on prélève l'eau, le niveau du barré Poitevin baisse. Ce qui a amené d'ailleurs la création le démarrage de bassines d'Ambercy là-bas, qui a été initié par Julien Leguet, qui est battleur dans le marais Poitevin, qui fait les visites, et qui s'est rendu compte au fil des années, il y a déjà bien longtemps, que le niveau du marais baissait. Et donc il a lancé avec d'autres cette initiative, et il était venu à la Loutre, en Haute-Vienne, là, faire une petite conférence. À l'époque, c'était un peu, nouveau ici en Haute-Vienne, personne ne connaissait le principe des bassines, mais maintenant, c'est clair pour tout le monde. Donc après, ça a été les Deux-Sèvres, après les Charentes, Charente-Maritime, la Vienne. On est en train de faire deux plus grosses bassines, deux énormes bassines qui sont sans doute les plus grosses existantes dans le Puy-de-Dôme, aux alentours de Clermont, en Limagne. Maintenant, on fait des bassines dans l'Hérault, dans le Var, dans le Midi, pour arroser les vignes. En Île-de-France, il y a eu un combat aussi qui a été gagnant, mais il était question de faire des bassines. Il y a aussi ce qu'on appelle des réserves collinaires, c'est-à-dire par exemple à la Clusaz. Donc là, on fait un peu une digression, parce que c'est plus l'agriculture, mais là c'est pour le ski de fond. On fait des réserves collinaires, c'est-à-dire on récupère l'eau sur les pentes pour faire de la neige artificielle. Donc en Haute-Vienne, on a depuis quelque temps des bassines, et il s'en crée encore quelques-unes. Si j'ai bien, là je ne veux pas m'avancer trop, mais je crois savoir qu'il y a deux bassines en construction. Alors je n'ai pas encore la surface, parce que c'est très difficile d'avoir l'information. Mais donc voilà, ça se généralise dans le Berry aussi. On est en contact avec des bassines d'Ambercy et Berry. C'est quelque chose qui se développe un peu partout, avec bien sûr la bienveillance d'une part de la FNSEA, d'autre part du gouvernement.
C'était la chronique environnement sur RTF 95.4, également sur internet rtflimoges.com.